Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Alors cette semaine, hein, vous le savez sans doute, les deux équipes françaises engagées dans l'Euroleague masculine s'affrontaient. C'était jeudi et Monaco est allé gagner à Villeurbanne 87-77. Un résultat qui n'a fait qu'amplifier une dynamique très favorable cette saison à la Roca Team, que ce soit face à l'ASVEL ou plus simplement au haut niveau européen, Monaco étant extrêmement bien classé en Euroleague. Donc justement, on va profiter de cette actualité pour évoquer la saison des deux mastodontes du basket français et parler aussi un peu d'avenir à court terme avec les ambitions de Final Four et même peut-être d'un peu plus de Monaco, et à moyen terme avec des changements qui devraient arriver, surtout à l'ASVEL, on va le voir. Pour parler de ça, j'ai avec moi aujourd'hui Samy Sadik qui revient justement de Villeurbanne où il a couvert le match avec Monaco. Salut Samy.
Salut Xavier, bonjour à tous.
Arnaud Lecomte, salut Arnaud.
Salut, salut.
Et Amaury Perdrio, salut Amaury.
Bonjour à toutes et à tous.
Allez, début du game. Alors, avant de diviser l'émission en deux parties, on va dire, de parler de l'ASVEL puis de Monaco, on va évoquer en premier lieu ce qui unit les deux clubs, c'est-à-dire l'argent d'Alexei Fedorychev, le patron de l'entreprise Fedcom, qui a elle-même une filiale qui s'appelle Squeak. Vous connaissez, c'est le diffuseur du basket français et européen. On sait qu'il y a d'énormes retards de paiement de la part de Squeak, notamment sur l'ASVEL. Alors, le patron de Squeak, Oleg Petrov, se veut rassurant. Hein, il évoque la situation compliquée du commerce de céréales avec l'Ukraine. En même temps, c'est pas forcément censé s'améliorer du jour au lendemain. Donc, on peut se demander si on doit être inquiet, s'il pourrait y avoir des conséquences, par exemple, pour les deux clubs masculins que sont l'ASVEL et Monaco, messieurs.
Sur ce qui concerne ce dossier des retards de paiement dont la presse s'est fait l'écho ces derniers jours, Squeak a communiqué cette semaine pour indiquer que ces retards de paiement seraient bientôt comblés par une trésorerie qui va être un peu plus fluide. Donc,
C'est ça le problème, la trésorerie ?
Oui, c'est évidemment un problème de trésorerie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas actuellement les fonds suffisants pour honorer leurs engagements, mais ça fait déjà plusieurs mois manifestement qu'il y a des retards comme ça, notamment vis-à-vis de la chaîne L'Équipe, qui, comme vous le savez, est associée à Squeak par l'intermédiaire d'un contrat de sous-licence, etc., sur les droits de télé du basket français notamment. Donc, les frais de production n'ont pas été réglés par Squeak pour la chaîne L'Équipe ces derniers temps. Donc, il y a effectivement il y a eu un moment de flottement, en tout cas en cours d'hiver, sur la possibilité, pourquoi pas, de devoir cesser la production des matchs. Bon, ça, c'est manifestement quelque chose qui aujourd'hui est un peu mis de côté, parce que Squeak a promis que les engagements seraient tenus prochainement. Bon, à voir.
Les promesses n'engagent souvent que ceux qui les reçoivent, mais est-ce qu'il faut être inquiet pour les affaires de M. Fedorychev, c'est-à-dire simplement dans la capacité qu'il aurait à honorer des dettes prochainement ?
Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas. Moi, pour avoir discuté ces derniers jours avec des sources côté monégasque, effectivement, il n'y a pas d'inquiétude majeure sur la capacité de M. Alexei Fedorychev d'honorer ses engagements contractuels qui sont importants, évidemment, à l'AS Monaco, mais également auprès, donc, encore une fois, du basket français concernant les droits télé et du basket européen avec l'Euroleague. Donc, il n'y a pas d'inquiétude majeure. Bon, c'est ce que communique, c'est pas vraiment de la communication officielle, mais c'est ce qu'on nous indique. Voilà, le problème serait conjoncturel. Il serait lié aux sanctions qu'aurait pris l'Ukraine vis-à-vis de la société de M. Fedorychev, qui travaille donc en Ukraine sur le négoce et le commerce-transport des céréales. Donc, il y aurait actuellement une situation de blocage liée effectivement à des actions de justice, puisque M. Fedorychev, côté ukrainien, est un peu vu comme étant un oligarque Et compte tenu de la situation du conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, bon, il fait partie des gens en Ukraine qui sont considérés comme des proches de Poutine, etc. Enfin bref, donc il y a une situation politico-financière qui est un petit peu à la fois floue et effectivement incertaine. Donc je ne sais pas exactement quel sera l'avenir et comment... comment tout ça va se résoudre. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de retard de paiement du côté des joueurs de Monaco, d'après ce qu'on
point
me dit.
Point essentiel.
C'est un point évidemment crucial. Il n'y a pas de retard de paiement chez les joueurs étrangers. Il y a eu des retards de paiement au mois de février sur les joueurs français de l'AS Monaco. D'après ce que j'ai cru comprendre auprès de certains agents de joueurs français, ces retards de paiement, c'est de l'histoire ancienne aujourd'hui, mais la situation reste évidemment potentiellement, on va dire, préoccupante si jamais on ne sait pas, ça peut se reproduire. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, encore une fois, les flux notamment de paiement en euros posent problème à la société de M. Fedorychev, donc à Fedcom.
Et parce qu'on du sait coup, que les voilà, contrats sont parfois payés en dollars, parfois payés en euros.
Les joueurs américains sont payés en dollars, les joueurs français sont payés en euros. Donc les dollars, manifestement, ça passe. Les euros, c'est plus compliqué. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est assez complexe. Et moi-même, je n'ai pas forcément tous les tenants et aboutissants. Ce qui est sûr, c'est que l'AS Monaco et le basket français sont très attentifs à ce qui se passe.
Évidemment.
Évidemment, parce que c'est aujourd'hui la position de Fedcom dans le basket français... évidemment dans le basket monégasque, voire européen, et est assez forte et forcément ça a des conséquences.
Ça concerne aussi l'ASVEL, Squeak surtout, Arnaud parlait de Monaco, le Squeak est devenu l'un des sponsors principaux de l'ASVEL qui lui a permis d'augmenter son budget à 21 millions d'euros, ce qui n'est du jamais vu pour ce club. Et dans l'interview qu'il a donné à l'équipe, Tony Parker, il semble expliquer qu'il y a aussi des retards de paiement de Squeak et qu'il y a une situation à résoudre. Et si Squeak, cette manne-là, venait à disparaître l'an prochain pour l'ASVEL, ça ferait une chute de budget. Il ne serait peut-être pas en capacité de...
Ça a déjà été annoncé. Bah, d'ailleurs, je me tourne vers toi. Ça a déjà été annoncé sur les filles. Voilà. Mais est-ce qu'il peut y avoir la même chose chez les garçons?
Mécaniquement, oui. Si chez les filles, on parle d'un ordre d'idée de 5 millions d'euros en moins dans le budget, pourquoi est-ce que les garçons ne seraient pas impactés? À moins que Tony Parker...
réussissent à trouver un partenaire.
Limiter la casse chez les garçons. Mais...
Fasse un choix, sinon, peut-être.
C'est pas ce qu'il semblait nous dire, nous, en tout cas, dans l'interview qu'il a donnée. C'est que les deux entités, qui sont d'ailleurs séparées, ASVEL masculin et féminin, sont deux clubs à part, les deux seront impactés dans leur budget.
Et effectivement, ça pose question pour la saison prochaine, puisque c'était déjà difficile de construire. Enfin, ils n'avaient pas de résultats compétitifs en Euroleague avec un budget à 21 millions, un budget qui baisse. Ils devront sans doute faire des choix. Il y a des gros salaires à l'ASVEL, Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne, Youssouf Afal. C'est parmi les plus gros salaires de Betclic Elite hors Monaco. Il faudra peut-être faire des choix si cette Man Squeak disparaît et n'est pas remplacée. Oui, effectivement, tu peux être inquiet pour la saison prochaine.
Bah, justement, restons sur l'ASVEL et partons. Plutôt pour la saison passée, c'est qu'en 2022, on avait l'impression qu'il y avait un cap qui était passé par l'ASVEL. Alors, pas forcément en termes de budget, on restait à 15 millions entre 2021 et 2022. Par contre, il y avait les arrivées de Nando De Colo, de Geoffrey Lauvergne, qui symboliquement, et pas que symboliquement, sportivement, c'était quand même extrêmement important. Or, c'est depuis ce moment-là que les choses ont semblé se gâter. Qu'est-ce qui a pu se passer? On a l'impression qu'il y a un mojo qui a été perdu.
L'ASVEL a fait effectivement de gros efforts entre guillemets pour attirer Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne. Geoffrey Lauvergne fait 5-6 matchs, je pense, avant de se blesser la saison passée. Donc mécaniquement, une des deux recrues phares joue pas. Et sportivement, l'autre, Nando De Colo, a eu plein de petits pépins physiques. Donc ils ont misé gros sur deux joueurs sur lesquels ils n'ont pas pu compter vraiment l'an passé, puisque De Colo est blessé lors de la demi-finale qu'ils perdent contre Boulogne-Levallois. Et donc sportivement, il y a un recul parce qu'autour, on s'est rendu compte que le casting n'était pas au niveau. En fait, il y avait beaucoup, beaucoup de paris américains notamment qui n'ont pas fonctionné. Un des exemples, c'est Peter Jackson Cartwright, tout petit meneur recruté depuis l'Allemagne qui a été... c'est un flop. Et dès janvier, il est parti.
D'ailleurs, précision, il était MVP du championnat allemand.
MVP
de son successeur, c'était G-Shorts, comme quoi...
Comme quoi, voilà, lui, était... la taille faisait pas tout.
Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il y a une dissonance à l'ASVEL entre le structurel qui continue d'évoluer avec notamment l'ouverture de la LDLC Arena à Décines et le sportif. Ça pose la question de la façon dont les effectifs sont construits. Tony Parker, interrogé, dit « ça fonctionne très bien, notre cellule avec Michel Véronel, directeur sportif, Gaëtan Muller, le président, Nico Batum, le conseiller, et donc lui-même, Tony Parker, on a le droit de se poser des questions si ça fonctionne aussi bien ».
Oui, oui, on a le droit de se les poser et même d'y répondre en se disant que ça ne fonctionne pas très bien. La preuve, hein, c'est qu'en Euroleague, ça ne progresse pas. Cette saison, donc l'ASVEL est à 7 victoires.
Avant
les deux derniers matchs. Bon, avant-dernier, s'il n'y a pas de progression, il y a même une régression depuis quelques temps. Donc, il y a manifestement un problème de construction d'équipe. Moi, j'estime qu'elle était... je crois que beaucoup de gens estiment qu'elle était mal construite cette année. On en a la démonstration à travers le parcours en Euroleague. En championnat de France, ça va à peu près comme prévu. Ils sont actuellement deuxième. L'ASVEL est...
Très loin de Monaco, malgré tout.
Très loin de Monaco, c'est vrai. Mais néanmoins, tient à peu près son rang. Il n'y a pas eu trop de désordre cette année dans le championnat. Donc, reste le constat qui est qu'il y a eu trois coachs cette année qui se sont succédés. Hein. On se rappelle que le début de saison, c'est évidemment TJ Parker qui était en place depuis quelques années et qui a gagné des trophées avec l'ASVEL, bon, qui est parti au bout de
sept matchs
d'Euroleague, hein, c'est ça. Donc c'était assez tôt dans la saison. Derrière, on va chercher Gianmarco Pozzecco qui reste deux mois et demi, quelque chose comme ça. Ça se termine un peu dans le bruit de vaisselle. Hein. On se souvient d'une interview assez au vitriol de Tony Parker après avoir limogé Pozzecco.
Rappelons d'ailleurs que Tony Parker, interrogé sur le fait qu'il avait été très virulent et que ça n'avait pas plu à beaucoup, a répondu « j'ai pas dit tout ce que j'avais à dire ».
J'ai été soft. Et derrière, c'est Pierrick Poupé, un coach rookie, ancien assistant de TJ, qui reprend l'équipe tant bien que mal et qui fait pas du mauvais travail d'ailleurs. Hein. On sent que l'équipe, elle est aujourd'hui un petit peu mieux équilibrée. Il y a eu du travail de fait en défense, notamment. Bon, mais ça reste, il traîne quand même comme un boulet ce début de saison. Et puis le fait que cette équipe, je le répète, a été mal construite avec une équipe de joueurs très âgés. Et en effet, un manque d'impact, notamment sur les postes arrière où c'est un peu léger, quoi.
Ça pose une question essentielle. Amo, je me tourne vers toi. Est-ce que il faut réécrire, partir d'une page blanche? Quel que soit le niveau de finance.
Un des premiers facteurs qu'avance Arnaud, avec lequel je suis d'accord, c'est l'âge moyen de cette équipe. Je veux bien qu'on construise des campagnes sur l'expérience, mais à un moment donné, il faut des joueurs qui soient fiables physiquement, des joueurs qui soient fiables sur le terrain. On a quand même eu des contrats très longue durée qui avaient été offerts à Antoine Diot, Charles Cahudi. Ce sont des historiques, hein, je l'entends, David Laity. Mais si on ne pose pas à un moment donné le constat que ces joueurs-là ont nettement reculé dans ce qu'ils produisent sur le terrain et qu'on n'envisage pas de les remplacer peut-être plus tôt que ce qu'on avait imaginé.
C'est-à-dire qu'il y a, eu des déséquilibres, notamment aussi dans la distribution de la masse salariale. Et ce qui explique que cette équipe soit un peu juste, c'est que y a des joueurs qui sont payés très cher, il y a des contrats longue durée qu'il faut honorer. Certes, je pense que Charles Cahudi ou David Laity sont encore engagés avec l'ASVEL jusqu'en 2026. David Laity, en tout cas, c'est ça. Charles Cahudi, j'ai un doute, mais c'est encore...
Après, des équilibres, il y en a ailleurs, notamment.
C'est encore deux saisons, et il y a des équilibres salariaux avec Youssoufa Fall, qui est extrêmement bien payé.
Voilà. Mais même à Monaco, par exemple, il y en a. Mais c'est vrai que quand on a Mike James qui est surpayé, ce n'est pas la même chose que Nando Docolo, c'est 36 ans, Youssoufa Fall est pas le même niveau.
Et il y a surtout pas cette saison, il n'y a pas eu d'ajustement. Le seul ajustement joueur qu'il y a eu, c'est l'arrivée de Deshaun Thomas.
Qui n'a pas joué hier sur choix du coach.
Qui a 33 ans, je crois, qui n'est pas un jeune joueur en devenir, loin de là, et qui, surtout, n'avait pas montré grand-chose ces derniers mois depuis un certain temps. Donc, il y a vraiment un problème de réactivité. On a coupé
Frank Jackson
en début de saison, qui, certes, avait du mal à se mettre dans le collectif, mais de toute façon, ce collectif ne fonctionnait pas, et il n'a pas été remplacé. Paris Lee, on tire beaucoup sur lui. Je ne sais pas comment il va finir la saison, mais il a énormément joué. Le petit meneur, il a fait des progrès. On sent que c'est un joueur qui maintenant a vraiment la main sur l'équipe. Malgré tout, est-ce qu'il va finir la saison debout? Je ne suis pas sûr.
Justement, la fin de saison. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose malgré tout pour sauver un petit peu la saison de l'ASVEL dans cette fin de saison? Il ne reste plus que le championnat.
Hein, pour sauver la saison, il faut un titre. Alors, c'est reconnu par un joueur, par exemple, comme Timothée Lou à Ocabarro.
Est-ce qu'il faut vraiment un titre? Parce que Monaco est tellement au-dessus qu'une certaine manière, s'ils n'ont pas le titre, mais qu'ils arrivent à ne serait-ce qu'aller titiller en finale, c'est déjà peut-être pas si mal.
En fait, oui, si tu avais eu une campagne d'Euroleague intéressante, si tu avais été loin en Leaders Cup, tu perdais les quarts de finale contre Nanterre, qui est normalement pas censé être à ton niveau, puisque tu es une équipe d'Euroleague, tu perds en plus avec une attitude en défense, un match dont vraiment tu n'es pas fier en termes de contenu. Donc, vu tes trois compétitions précédentes, j'inclus déjà l'Euroleague au passé, oui, il faut que tu gagnes le titre pour sauver ta saison. Alors, Pierrick Poupé n'est pas sur cette ligne-là, dit l'important, c'est la progression collective. Mais concrètement, là, si l'Asvel fait 0 sur 4 avec cette impression de ne pas avoir existé vraiment en Euroleague, d'être sorti d'entrée...
Mais sur la dernière semaine, on est comment ? Sur le jeu de l'Asvel, est-ce que ça... On a dit, Pierrick Poupé, il y a du mieux.
Il y a du mieux, il faut pas non plus... Faut ni noircir ni vraiment embellir le tableau depuis que Poupé est là, mais je trouve qu'il y a un peu plus de cohérence. On sent alors il y a eu des à-coups, il y a eu comme le laissait entendre Samy un peu de tension sur le terrain lors de la demi-finale perdue en Leaders Cup avec Geoffrey Lauvergne, si je me souviens bien.
Et Timothée Louahou, je crois aussi.
Et Timothée Louahou. Donc il y a, on sent que c'est une équipe qui était un peu sous tension à un moment donné. On sent un peu plus de sérénité collectivement. Ça ne veut pas dire que c'est devenu une équipe compétitive au point de pouvoir. Bousculer Monaco en finale du championnat s'il se retrouve en finale du championnat, mais c'est sûr qu'il y a une progression. Maintenant, moi, je pense que cette équipe, ses carences chroniques et structurelles, on va dire, depuis le début de la saison, elle va pas les combler, elle va pas changer la donne comme ça du jour au lendemain. Maintenant, elle est probablement un peu plus compétitive aujourd'hui qu'elle ne l'était au mois de novembre. Ça, c'est sûr.
On pensait que c'était la deuxième puissance du basket français, sachant que Monaco avait quand même, avec ce Final Four l'année dernière, mis vraiment les deux pieds dans le leadership. Amaury, là, la deuxième place officieuse, hein, c'est un classement entre nous d'une certaine manière, mais la deuxième place de l'Asvel dans le basket français, elle est carrément en péril par rapport à la montée en puissance de Paris. Alors, je précise qu'on n'a pas beaucoup parlé de Paris et de Bourg-en-Bresse, parce qu'au moment où on enregistre, ils jouent ce soir, donc vendredi, leur match retour. Donc on ne sait pas s'ils vont être en finale de recoupe. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'une équipe comme Paris, dans ce pareil, entrée en salle quasiment au même moment, y a un truc. Voilà, l'Asvel est même en train de se faire dépasser alors qu'elle était elle-même en train d'assez.
C'est la logique des formes du moment. Et là, on parle des formes de la saison. Je pense qu'il faut s'extraire justement de ce débat-là parce que, à mon sens, l'Asvel a toujours le potentiel pour être cette deuxième puissance. Parce que, même en enlevant Squeak, par exemple, elle aura quand même, je pense, une masse salariale qui lui permettra de faire des choses, pourquoi pas en repartant d'une page blanche l'année prochaine. Et il y a une forme d'expérience dans l'élite, d'expérience de l'Euroleague qui finira par servir à ce club. Paris, c'est une équipe qui émerge très fort, très vite, très haut. L'Eurocoupe peut-être renforcera un peu ce sentiment-là. Mais c'est une équipe qui devra apprendre à perdurer dans la performance. L'Asvel, avant que tout aille mal, c'est quand même une équipe qui arrivait à sortir du lot chaque année. Là, c'est une année catastrophe, d'ailleurs, à bien des égards. Donc, je pense qu'ils se sont perdus. Ils ont choisi de naviguer à vue depuis 2 ans. Et au final, moi, le projet qui me plaisait, c'était celui de réhabiliter des joueurs un peu en perdition. Moi, je me souviens très bien de cette saison. Hurtel, Mustapha Fall et Gershon Yabusele, on avait dit cette année-là, mon Dieu, on a assisté à une fin de championnat extraordinaire. Et par des choix de salariaux, ça s'est perdu. Mais on peut, comparé à Paris, je trouve que c'est un peu prématuré parce que Paris a encore besoin de s'affirmer de son côté avant d'être comparé à une superpuissance du championnat depuis 10, 15, 20 ans.
Et puis il y a eu quand même, du côté de l'Asvel, on ne l'a pas souligné, mais il y a quand même eu de la perte de Victor Wembanyama et de Zachary Risaché coup sur coup, alors que c'était des joueurs sur lesquels, bon, alors, évidemment, ils n'imaginaient pas bâtir pendant plusieurs années sur ces deux joueurs-là, puisque par définition, ils avaient vocation à partir en NBA très vite. Néanmoins, ça traduit quand même un manque probablement de leur départ qui n'était pas prévu, traduit un manque manifestement de confiance générale dans les projets, de gouvernance. On rejoint ce qu'on disait tout à l'heure en laissant entendre que cette équipe avait été assez mal construite. Donc il y a un vrai problème à mes yeux de management sportif.
Et puis même en filigrane.
Et ça fait partie de tout ça.
De ce que tu dis, c'est vrai qu'en filigrane, il y a un énorme déficit d'image dans le départ de ces deux jeunes, sachant qu'il ne s'est pas super bien passé. Mais c'est vrai qu'on oublie même le déficit sportif, parce que quand on voit ce qu'apportait déjà Wembanyama l'année dernière et ce qu'apporte Risaché, c'est aussi un déficit sportif qui se paye dans les résultats. À l'inverse, on va basculer vers Monaco, là tout va bien. Faut pas être oublié non plus. Il y a encore pas si longtemps que ça, 2 mois et demi, au 11 janvier, ils étaient à peine positifs en Euroleague, hein, 11 victoires, 10 défaites. Ils venaient de se prendre à moins 25 au Pana. Et puis ensuite, Samy, qu'est-ce qui s'est passé pour que Monaco surfe sur cette, euh, C'est 8 victoires consécutives, une série juste avec une défaite contre Milan, mais ça on en parlera après.
Ouais, comme tu dis, quand ils perdent au Pana, il y a vraiment l'impression que oui, c'est plus du tout la même équipe que l'an passé, que le top 4 sera très compliqué à aller chercher, et qu'en fait ça n'avance pas vraiment. À l'époque, Kemba Walker, à part trouver son niveau, l'a toujours pas vraiment retrouvé. Jordan Lloyd joue les intermittents puisqu'il est toujours un peu blessé au dos. Et ils viennent de suspendre aussi Yo Kobo qui avait eu des mots, une prise de bec avec Donatas Motiejunas dans le vestiaire après un match chez l'autre club grec, l'Olympiakos. Et un peu, bah, y a un basculement un peu après cette suspension, parce qu'Okobo n'est pas là au Pana, revient pour le match contre le Real, qui est le tournant de cette saison, parce qu'ils font leur meilleur match collectif face au Real. Ils réinstallent une hiérarchie, donc avec effectivement James. Okobo retrouve un peu sa place, étant censé être le lieutenant sur les lignes arrière. Et surtout, il retrouve en fait une défense. C'était toujours la marque de fabrique de cette équipe, mettre énormément d'intensité, de coups. Ils l'ont fait hier face à l'Asvel, c'est ça qui leur permet de gagner. Ils retrouvent ça sur toute cette série, puisqu'ils vont gagner à Barcelone, ils vont gagner à Bologne, à chaque fois en mettant les barbelés. Et donc là, ils sont sur 10 victoires, 11 défaites, mais on va peut-être un peu en parler, 10 victoires en 11 matchs, pardon. On va peut-être un peu en parler, puisqu'ils ont l'impression qu'ils ont quand même utilisé beaucoup d'essence pour cette série.
Ah bah ça c'est une évidence absolue, Amo. Ouais. Les derniers matchs, donc cette lourde défaite face à Milan, pas facile contre Valence, hier jeudi, ils étaient à moins 11 à un moment contre l'Asvel, dont on vient de dire toutes les difficultés malgré les progrès. Je ne dirais pas le mot inquiétude, mais voilà, ils sont sur la jante, non?
Alors sur la jante, peut-être pas, mais il y a quelque chose dont ils se plaignent depuis des semaines, et moi ça m'est marqué notamment au moment de des quarts et demi de Coupe de France à Trélazé, où le sujet qui revient sans cesse dans cette équipe, c'est l'enchaînement des matchs, tous les deux, trois jours. Alors la Coupe de France, c'était deux matchs en deux jours. De devoir se coltiner des matchs de très haut niveau d'Euroleague avec la perspective d'une qualification parmi les quatre premiers. Je rappelle, ça octroie l'avantage en quart de finale, ce qui est quand même pas négligeable avant d'envisager un Final Four. Et ensuite, le championnat, les Coupes de France, la répartition des temps de jeu, un Kemba Walker qu'on ne peut pas faire jouer en championnat parce qu'il n'est pas qualifié, les blessures entre Lloyd, Alpha Diallo qui a été absent très longtemps. Finalement, ils se sont retrouvés à jouer en moyenne tous les 2,8 jours et pas le coffre physique pour pouvoir tenir sur le rythme.
Mais je mettrais un bémol sur... Effectivement, ils parlent du calendrier, mais moi je parlerais des rotations. Ils ont tendance vraiment... Enfin, je trouve qu'Obradovic... leur coach en Euroleague a tendance vraiment à restreindre sa rotation. Dès que ça se passe pas très bien, il compte plus que sur 7 ou 8 joueurs. Un Matthew Strazel qui a beaucoup apporté, par exemple, se retrouve régulièrement hors groupe. Un Kemba Walker joue parfois en première mi-temps, puis en deuxième, quand il faut vraiment aller chercher le match, il reste sur le banc.
Au-delà de l'Euroleague, on est parfois surpris qu'il aligne toujours les meilleurs joueurs, même en championnat. C'est plus en championnat. Ils ont une grosse avance sur la concurrence. Ils perdent 2-3 matchs d'affilée là. Honnêtement, ils seront encore leaders. On s'imaginerait des matchs où Strazel, Ouattara, Blossom Game, Corneli et Jaïté joueraient chacun 30 minutes avec peut-être deux remplaçants, dont un espoir, et le reste au repos.
Ça n'a jamais été sa philosophie.
Bien sûr, c'est clair.
Et surtout, je pense surtout, et ça n'engage que moi sur ce que j'ai vu de certains matchs, et voilà, que Sacha Obradovic n'a pas forcément toujours confiance dans ses joueurs qui sont 8, 9, 10, jusqu'à 14e de l'effectif. J'ai vu à Trélazé des scènes où, effectivement, comme tu dis, Samy, il fait rentrer un joueur, il le sort 30 secondes plus tard parce qu'il n'a pas obtenu de ces joueurs qui ont moins l'habitude de jouer l'efficacité escomptée dès l'entrée sur le terrain. Il y a eu des prises de bec avec Peter Corneli notamment, et quand j'ai posé la question à Obradovic, il dit oui, ça arrive très régulièrement qu'on se prenne la tête parce que certains joueurs ne comprennent pas que ce que j'attends d'eux, c'est d'être bon tout de suite quand je les mets. Alors est-ce que finalement, au fur et à mesure que la saison se déroule, cette confiance-là continue de s'effriter, je peux pas le dire.
Et puis il y a un autre problème, c'est qu'on lui a posé la question après un match, le match contre Valence justement, en fait il n'arrive pas à lâcher un match. Genre c'est psychologique, il n'arrive pas à mettre l'équipe B sur un match de championnat parce que c'est sa philosophie. Parfois Mike James joue 27, 28 minutes sur des matchs de championnat où... Comme tu l'as dit, c'est pas forcément nécessaire. Ils ont 5 victoires d'avance, sauf Cataclysme, la première place.
Jamais l'idée de philosophie, mais parfois la nécessité doit aller au-delà des principes.
Mais il est en combat permanent avec ça, parce qu'on voit quand même qu'en championnat, il essaie un peu plus de donner des responsabilités aux joueurs français. Mais en fait, très vite, quand le match est serré, il retombe sur ses rotations habituelles.
Je pense qu'il y a effectivement la volonté chez lui de pas non plus faire deux équipes différentes, parce que ça, c'est un concept un peu fumeux, qu'on balance parfois en se disant, tiens, après tout, pourquoi pas faire deux équipes vraiment très différentes entre le championnat et l'Euroleague. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que dans une équipe, il faut de l'alchimie, il faut vraiment trouver un équilibre collectif. Et je pense que lui, effectivement, a une tendance peut-être à faire un peu plus confiance, même beaucoup plus confiance dans ses joueurs cadres que dans ses joueurs, on va dire...
Deuxième cinq.
Deuxième cinq, c'est souvent des internationaux français. Hein.
Mais en même temps, il expliquait, je me souviens, fin décembre, il expliquait que la grande réussite de cette équipe cette année en Betclic Elite, puisqu'ils sont qu'à deux défaites, ce qui va, je crois que ça va être, s'il reste à deux défaites, ce sera le meilleur parcours depuis 30 ans en championnat de France. Il attribuait cette grande réussite au fait que sa deuxième équipe, si je puis dire, l'équipe française, on va dire, du dimanche, était beaucoup mieux intégrée que l'année dernière. Par exemple, je crois qu'ils ont fait 8 défaites, il me semble, l'année dernière, sur toute la saison, contre 2 cette année pour le moment. Et que donc, ils avaient réussi à trouver un équilibre très satisfaisant à ce niveau-là. L'équilibre, ça veut dire aussi ne pas couper ses joueurs cadres le dimanche du reste de son effectif, quoi. Donc je pense que c'est un équilibre qui est très compliqué effectivement à trouver, mais que lui arrive à un mal de chien en effet à reposer Mike James ou John Brown ou Alpha Diallo plus régulièrement.
Corrigez-moi si je me trompe, moi c'est l'impression que j'ai des derniers matchs. On a un Mike James qui est un peu plus en difficulté là depuis 2-3 mois, moins percutant, je le sens.
Il a marché sur l'eau au début de la saison. Oui, c'est étonnant qu'il ne tienne pas toute la saison à ce niveau-là.
Jusqu'à il y a 3 semaines.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Et là, il y a des matchs où il se cherche vraiment et finalement, Monaco va chercher d'autres solutions à part Mike James. Et finalement, est-ce que ça n'explique pas aussi qu'on ait l'impression qu'en ce moment, ça va moins bien? Mais est-ce qu'il vaut mieux pas que ça aille moins bien maintenant pour que dans 3 semaines, ça carbure un peu plus? Les coups de mou dans une saison, il y en a toujours, mais il ne faudrait pas que ça perdure.
Oui, sauf qu'il y a 2 matchs à gagner impérativement pour être certain d'avoir son destin en main et de terminer dans les 4 premiers, puisque l'essentiel est en effet de terminer dans les 4 premiers de la saison régulière de EuroLeague pour avoir le fameux avantage du terrain en quart de finale.
Justement, là, ils sont un peu crevés. Imaginons que l'énergie revienne, tu en parles toi-même dans peut-être 2-3 semaines. Cette année, ils en sont où en termes de jeu, de projet de jeu et d'exigence de jeu pour leurs objectifs d'aller à nouveau au Final Four, déjà d'avoir l'avantage du terrain en quart de finale des play-offs d'Euroleague, puis après d'aller au Final Four à nouveau et peut-être de gagner le titre, est-ce qu'il vous semble dans la bonne ligne?
Ouais, ils n'ont pas vraiment changé l'ADN, qui est toujours une équipe qui repose essentiellement sur cette action arrière, plus disons Alpha Diallo. Je me souviens d'un match que j'étais...
Je vais poser la question différemment, est-ce qu'il y a des équipes qui vous paraissent largement supérieures à Monaco en Europe aujourd'hui?
Largement non, ils ont battu quasiment tout le monde sauf le Panathinaikos cette année, je crois, si je me trompe pas.
Ils auraient dû les battre au match aller sans
le tir au buzzer.
Le lancer franc d'Eli Okobo qui avait fait un peu dévriller la fin de match, souvenez-vous.
Non, ils ont battu tout le monde et
Real, Pana, personne au-dessus.
Personne largement au-dessus, tu vois, ils partent battus d'avance entre guillemets. Le Real, ils ont fait un chef-d'œuvre collectif à domicile. Barcelone, ils sont allés gagner là-bas, c'est la première fois de leur histoire qu'ils le font. Donc ils ont collectivement, c'est mieux que l'an passé, ils vont finir avec un meilleur total de victoires, avec, je trouve, plus de victoires références aussi, vraiment, sur la série de 8 victoires dont parlait Arnaud, il y a énormément de performances de XXL, quoi. Tu vas gagner à Istanbul, tu vas gagner à Bologne.
D'ailleurs, autant dans le jeu que dans le résultat, hein. Il y a eu des choses magnifiques à voir.
Et il y a aussi eu des joueurs qui ont retrouvé un niveau fantastique, il y a John Brown qui par séquence leur fait gagner des matchs à lui tout seul en défense, donc je les trouve meilleur que l'an passé sur ces 11 derniers matchs. Il y a la question de la fatigue, on le disait, mais ils partent avec plus d'expérience, plus d'ambition sur un éventuel quart de finale plus Final Four. Ils veulent gagner l'Euroleague. Ils ont encore en travers de la gorge cette demi-finale de l'an passé où ils s'écroulent complètement dans le troisième quart. Donc là, ils sont dans les 2, 3, 4 candidats à la victoire finale.
Oui, après, encore une fois, sur l'histoire de projet de jeu, de qualité de jeu, je pense que dès qu'on arrive au niveau des quarts de finale, Final Four, c'est différent. Mais sur les quarts de finale, je crois que c'est du combat avant tout. Parce que, vous le savez, en Europe, les quarts de finale sont systématiquement des matchs, c'est des séries, hein, au meilleur des 5. C'est systématiquement des batailles terribles dans des lieux le plus souvent chauds, avec des ambiances phénoménales. C'est les matchs vraiment qui sont les plus intéressants de la saison, finalement, Évidemment, le Final Four, c'est autre chose que ce sont des matchs secs. Mais sur les séries, c'est vraiment formidable. On se souvient très bien des deux séries qu'a pu jouer Monaco ces deux dernières saisons face à Olympiakos et au Maccabi Tel Aviv avec des matchs 5 à chaque fois. C'est passionnant.
Dit différemment, il n'y a personne qui est largement au-dessus d'eux, mais ils sont largement au-dessus de personne d'autre. C'est-à-dire Fenerbahçe, Barcelone, tous ceux qui sont derrière, hein, juste derrière, Maccabi Tel Aviv, tout ça, s'ils affrontent en quart, ils seront favoris. Mais ça,
avec l'avantage du terrain, petit. Ils seront favoris. Ouais. C'est celui qui a l'avantage du terrain qui sera favori. En Euroleague, c'est comme ça que ça marche. Je crois que la stat reste
même
toujours
Monaco,
vivante.
D'ailleurs.
Il
n'y
a jamais eu une victoire au match 5 à l'extérieur. Mmh. Donc on sait à quel point c'est fondamental, surtout quand vous allez jouer, j'en sais rien, moi, Maccabi, Olympiakos, Fenerbahçe, dans des salles chaudes, de chez chaudes, quoi, ou pas là. Et voilà, quand on est Monaco, par contre, on sait très bien que jouer un match 5 à l'extérieur... on n'est pas bien, donc ça c'est un élément fondamental, quoi, d'aller chercher cet avantage du terrain, et ça va être le boulot là maintenant de cette équipe sur les deux derniers matchs.
Voilà, on est arrivé à la fin de ce step back, hein, spécial Asvel et Monaco. D'ailleurs, c'était pas la première fois qu'on parlait de Monaco, on a déjà parlé à l'occasion d'une spéciale Mike James. Et je me dis que peut-être ce sera pas la dernière cette saison, parce qu'il y a encore des belles opportunités de titres et de trophées individuels, de titres collectifs. Donc merci messieurs de nous avoir fait ce point. Salut Samy, salut Arnaud, salut Amaury, et à la semaine prochaine.